Bonjour à tous, je suis heureux d'être parmi vous et j'ai vu des têtes que je connaissais, à ma gauche entre autres, à droite et au milieu, j'ai pas eu le temps. Donc merci de m'accueillir, c'est vraiment un privilège d'être parmi vous, on a beaucoup de joie à être ici. La marraine de nos enfants est dans votre petite ville, enfin Roche-les-Blamont, c'est pas une petite ville, c'est un village. Mais c'est pas très loin d'ici, et donc du coup on vient régulièrement dans la région, on aime vraiment beaucoup votre région, et on la convoite. Bon, on a du vin en Bourgogne, hein, la route des Grands Crus commence à Dijon, donc on est pas mal lotis, c'est sympa aussi. Et alors on n'a pas de clou de girofle chez nous, mais je me demandais si vous aimiez le clou de girofle. Est-ce que vous pourriez lever la main, ceux qui aiment vraiment l'odeur du clou de girofle? D'accord. Donc pour vous, c'est une odeur agréable. J'imagine que ce sont des souvenirs de l'hiver, n'est-ce pas, hein, au coin du feu, avec une orange piquée avec des clous de girofle, un bon thé. C'est à peu près ça, je suppose. Pardon? Ah! Alors, il y en a pour qui c'est une bonne odeur, effectivement. Et moi, je voudrais savoir, dans cette salle, est-ce qu'il y en a qui détestent le clou de girofle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, voilà, je ne suis pas tout seul, en fait. En fait, moi, quand je sens le clou de girofle, ça me rappelle le dentiste. Ça sent moins le clou de girofle, là, depuis une dizaine d'années, parce qu'ils ont d'autres puissants anesthésiants qui n'ont pas ce goût, cette odeur. Mais quand on rentrait dans un cabinet de dentiste, hein, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, quand moi j'étais gosse, 40 ans, ça commence à dater, ça sentait cette odeur de clou de girofle et ça me... Ah, c'était le dentiste, la roulette et tout ça. Et donc l'odeur du clou de girofle, pour moi, c'est... Non, j'en veux pas. Et je me suis dit, finalement, être un témoin de Christ, ça ressemble à un clou de girofle. On porte un seul parfum, mais on évoque deux odeurs radicalement différentes. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou bien à suivre sur l'écran le texte qui sera projeté. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 17. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures, de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous annonçons la parole. Juste avant ce cri de victoire, parce que c'est un cri de victoire, si vous regardez le début, je ne puis que remercier Dieu. Juste avant ce cri de victoire, Paul était très préoccupé, voire perturbé par la situation de l'église de Corinthe. En effet, lors de sa dernière visite, Paul avait été très attristé par leur attitude. Lui, il les considérait comme ses propres enfants. 2 Corinthiens 6, verset 13. Avec cet amour, il a été lâchement abandonné. Au beau milieu d'un discours, alors que Paul tentait de les ramener sur le chemin de la vérité, un homme s'est levé au milieu de l'assemblée et l'a attaqué de front, devant tout le monde. Et il a commencé à critiquer l'apôtre Paul pour essayer de détruire sa réputation et discréditer son ministère. Entre autres, il disait que c'était un faible, hein, qu'il avait une conduite qui était trop humaine. Chapitre 10, versets 1 et 2. Il disait que c'était un piètre orateur, qu'il manquait d'éloquence, chapitre 11, versets 5 et 6. Il disait que c'était un apôtre de seconde classe. Il ne faisait pas partie des 12, l'apôtre Paul, en tout cas au départ. Et donc, il n'avait pas l'autorité des apôtres de Jérusalem. Il a dit également qu'il avait de mauvaises intentions, que c'était un profiteur, chapitre 11, versets 7 et 9. Bref, cet homme discréditait publiquement l'apôtre Paul. C'est assez courant quand on incarne l'autorité, Hein, ceux qui sont leaders, qui sont responsables d'un groupe. Si vous n'avez jamais été discrédité ou que vous n'avez jamais eu des difficultés dans votre ministère, c'est que ça fait peu de temps que vous êtes dedans. Encore quelques mois et vous allez voir. Les difficultés ne vont pas tarder d'arriver. Paul savait ces choses-là. Mais ce qui a le plus attristé Paul, c'est pas le fait de prendre des coups, c'est que dans l'assemblée, personne n'a bronché. Personne n'a rien dit. Et ça, c'est terrible. Et imaginez-vous dans les baskets de l'apôtre Paul, enfin plutôt dans ses sandales. Imaginez-le, là, tout le monde le discrédite, enfin, cette personne le discrédite et personne ne réagit. Il y a de quoi déprimer. Et c'est pour ça que lorsqu'il écrit, il dit « Je suis profondément attristé, j'ai le cœur brisé. C'est dans une grande affliction, le cœur serré avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Vous voyez, il est dans cette circonstance. On est quelques versets avant notre texte. Il est dans cette circonstance. Mais il aurait légitimement le droit, je ne sais pas si c'est un droit, mais d'être dans la déprime. Hein, quand on prend des coups, il y a une période, une phase où on est dans la descente. Eh bien l'apôtre Paul va réagir, il ne va pas baisser les bras, mais au contraire, il va se souvenir de la gloire de son ministère. Il va se souvenir de la gloire de son ministère. Et vous voyez, au début du texte, il dit « Je ne puis que remercier Dieu » et immédiatement après, il passe au « nous ».« Je ne puis que remercier Dieu, il nous associe ». Et si l'apôtre Paul a pu se réjouir alors qu'il traversait une période de difficulté, c'est valable pour nous. Et ce texte ce matin, on va essayer de se l'approprier. Il est valable pour vous qui traversez aussi des difficultés. Peut-être que vous êtes déjà dans la joie, mais vous allez voir que ce texte, malgré que le ministère cogne, on peut relever la tête et dire « Waouh, c'est glorieux ce ministère-là ». Et donc, on va lire la suite, on va maintenant rentrer dans le détail. On n'a pas que du vin en Bourgogne, on a aussi de l'eau. C'est préférable quand on prêche. Donc le verset 14 nous dit « Je ne puis que remercier Dieu, il nous fait toujours, pardon, j'ai deux versions là, il nous associe toujours au cortège triomphal de Christ. » Ici, Paul utilise un terme technique, le triomphe. À l'époque de Paul, la plupart des Corinthiens savaient de quoi il s'agissait. Parce que le triomphe, alors nous on connaît le triomphe romain, mais ça existait déjà chez les Grecs. Et donc, quand il parle de triomphe, tout le monde savait ce que ça voulait dire. Alors, je vais vous donner là quelques exemples, parce que ça sera peut-être plus parlant pour vous. Vous avez déjà vu le film Gladiator, c'est une image de ce film. Eh bien, dans le film Gladiator, au tout début du film, on assiste au triomphe. Alors, je ne me rappelle jamais de son nom, il a un nom bizarre, l'empereur qui était là. Bref, vous regarderez le film. Commodus, voilà, Commode. Ça dépend comment. Si on est en franc-comtois, on dit Commode. Commodus. En fait, c'était une cérémonie assez grandiose, un énorme cortège qui traversait toutes les villes de Rome et qui passait par les plus grandes places. Le Sénat accordait une seule fois dans la vie d'un général ce triomphe. Et il y avait des conditions à respecter. Il fallait avoir réussi en tant que général la conquête complète de ses ennemis et produire la paix. Ça n'aurait pas pu fonctionner avec les Français parce qu'il y avait toujours les petits Gaulois qui étaient là. Vous voyez ? La Pax Romana devait avoir été instaurée. Ça veut dire qu'il fallait aussi que l'ennemi ne puisse plus être rebelle, donc privé de ses armes, qu'il ne puisse plus prendre la rébellion. Donc il y avait cette paix qui était installée, un peu forcée mais quand même. Ensuite il fallait avoir étendu l'Empire romain, parce qu'il y a eu souvent des guerres entre les Romains eux-mêmes, hein, des conquêtes de territoire, et, enfin pas de territoire, c'est entre eux, donc dans l'armée romaine, l'Empire romain ne grandissait pas. Il fallait avoir un quota, tuer au moins 5000 soldats, Ça fait bizarre, hein? Mais avoir au moins tué 5000 soldats et capturé le roi ou le dictateur ennemi. Et c'est seulement quand ces conditions étaient réunies qu'on pouvait faire un triomphe au général. Donc c'était rare. Il y a eu très peu de triomphes dans l'histoire. Ici, vous avez une fresque qui représente le triomphe de Titus. Et Titus a sa propre arche. Alors vous voyez un petit peu un bout du cortège, mais c'est vraiment tout petit. C'est le général, ici avec les quatre chevaux. Mais le cortège était très long, très long. C'était un cortège, devant il y avait un défilé avec les chars et le butin. Tout ce qu'on avait pu rafler à l'ennemi, les œuvres d'art, la monnaie, les armes. Derrière ce musée ambulant suivaient les membres du Sénat. Ils sont toujours là, les politiques. Hein, ils se montrent et bien fiers d'être là. Ils n'ont rien fait, mais c'est pas grave, ils sont là. Derrière eux marchaient les chefs vaincus et leurs familles. D'accord, donc tout le monde n'était pas mort. Il y avait un quota, mais il fallait avoir saisi le roi et sa famille, et donc il marchait dans ce cortège. Et donc, juste derrière tout cela, il y avait le général, donc ici, tiré par quatre chevaux. Et donc lui, il était orné de pourpre, et sur sa tête, une couronne de laurier en symbole de victoire. Derrière le général, défilait l'armée victorieuse, sans armes, dans l'enceinte de Rome. Et elle fermait la marche. Et donc vous imaginez ces soldats qui venaient de remporter cette victoire et qui étaient fiers d'avoir gagné. Et donc dans les rues, il y avait des énormes marmites où brûlait de l'encens. D'accord ? Donc vous imaginez une odeur particulière. Et il y avait de la fumée aussi, des fumigènes. On envoyait des fleurs partout dans la ville et donc des pétales étaient jonchaient le sol pour que les militaires et tout ce défilé puissent avoir cet honneur de marcher sur des fleurs. Et donc tout le monde dans la ville criait « Triomphe ! Triomphe ! » C'était vraiment la gloire. « On a gagné ! On a gagné !» Ça vous rappelle quelque chose ? Je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose. Moi, je l'ai vécu en 98. C'était hallucinant. La Coupe du Monde, la victoire de la Coupe du Monde en 98, et j'ai eu le privilège d'en vivre deux dans ma vie. Les deux étoiles qu'il y a sur le maillot, j'y étais. C'est génial. En fait, même si vous aimez pas le foot, on peut pas passer inaperçu. C'est pas possible. Alors peut-être que si vous êtes paumé à Roche-les-Blamont, et encore, je suis sûr que les vaches chantaient aussi. Mais c'est une effervescence. La victoire de l'équipe de France, c'est une effervescence. C'est mondial. Et c'est quelque chose de joyeux. Tout le monde s'attrape dans les bras et on chante. On a gagné. Alors là, il y a des chants beaucoup plus intellectuels maintenant. Donc ça va pas très loin non plus, hein. Mais quand même, c'est vraiment une effervescence. Donc c'est un petit peu cette ambiance. Vous l'avez vu ici, là, sur cette image. C'est les Champs-Élysées. Il y a une fumée extraordinaire. Il y a du bruit. Et il y a ce char triomphal. Regardez, ici, c'est un bus qui a été affrété exprès pour l'équipe de France. Ils pouvaient être en haut sur le plateau, et puis tout le monde les célébrait, et ils sont passés sur les Champs-Élysées. Donc, ils sont partis de l'Arc de Triomphe, et ils ont traversé tous les Champs-Élysées, et c'était leur cortège triomphal à eux. Donc, nous aussi, on peut dire, on a notre Arc de Triomphe, il est là, on est fiers, cocorico. Pourquoi je dis cela ? Ces exemples sont juste là pour vous montrer l'ambiance qui régnait à Rome à ce moment-là. En empruntant cette image, Paul se souvient que son ministère est glorieux parce qu'il fait partie du cortège triomphal de Christ. Et parce que nous faisons partie du même cortège, nous pouvons faire comme ces Romains qui étaient là, qui avaient gagné, et crier « Triomphe ! Triomphe ! » Parce qu'on est associés. On est associé à la victoire de Christ. Jésus a choisi de nous associer à sa victoire. C'est un privilège, les amis. Vous portez aujourd'hui le maillot de l'équipe des vainqueurs. Vous, vous n'avez pas une étoile. Vous avez juste une croix. Et c'est suffisant. Cette croix-là est suffisante parce qu'on partage le cortège triomphal de Christ. Il nous associe. Combien de fois il nous associe ? Relisez le texte. Une fois ? Non, c'est pas deux étoiles. Toujours. Il nous associe toujours au cortège triomphal de Christ. Et là, vous me dites, « Oh, Franck, sois pas trop triomphaliste. » Et vous auriez raison. C'est là-haut. C'est dans la gloire qu'on va célébrer cette victoire. Pour le moment, on est en attente, on est sauvé en espérance, mais la victoire est déjà acquise. Romains chapitre 8, verset 30, il dit « Nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés » et il va plus loin. C'est tellement certain qu'on a même été glorifiés. On a été glorifiés. La victoire est déjà là, les amis. Et on peut être certain, Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité. Là, il a prouvé qu'il était victorieux sur la mort et sur le péché. Et donc, il nous associe dès maintenant à sa victoire. C'est une grâce. C'est une grâce. Tout est grâce. Mais prenons conscience qu'on fait partie du cortège triomphal de Christ. La victoire, elle est au bout. Peut-être que maintenant, ça va être difficile. Et là, je veux faire quelques applications. Je ne sais pas dans quelle situation vous vivez. Peut-être que vous êtes dans des difficultés. Vous avez vécu cette semaine ou les mois qui ont précédé des humiliations, le rejet, des moqueries, le mépris des gens à qui vous avez voulu parler de Jésus. Peut-être que vous êtes dans la souffrance, dans la douleur. Peut-être que vous luttez contre le péché, contre votre chair, contre des tendances qui sont là. Eh bien, sachez que vous avez déjà la victoire. Il n'y a plus aucune condamnation pour l'enfant de Dieu. On est déjà victorieux. Même si parfois, on a l'impression du contraire. On est déjà victorieux. Cette victoire, on la célébrera ensemble lorsqu'on sera dans les cieux. Toutes ces choses, tout ce que nous vivons, Paul le dit au chapitre 4, ne sont que passagères. Si on les compare à la gloire à venir, c'est des cacahuètes. Peanuts. Ce ne sont rien. Toutes ces choses que l'on vit, toutes ces difficultés présentes ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Et l'apôtre Paul nous rappelle cette gloire à venir. Et ça, c'est notre objectif de rencontrer notre Seigneur dans le ciel. Deuxième point que j'aimerais souligner dans ce texte. Nous sommes le parfum de Christ. Nous sommes le parfum de Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ. Dans sa grâce, Dieu nous utilise pour répandre son parfum. Il n'est pas obligé. C'est son choix. Il a choisi des créatures imparfaites pour représenter le roi des rois. Il a pris un risque. Il a pris un risque. Mais c'est son choix. Il se sert de nous. Et donc, il va nous utiliser comme le parfum, comme un parfum. Donc, c'est par moi, c'est par toi, c'est par nous qu'il va faire connaître l'odeur de sa connaissance. C'est ce qu'il dit ici. Nous, on va jouer le rôle de l'encens, le rôle des pétales écrasés. Cette odeur qui accompagnait le cortège et qui envahissait toutes les narines. Le parfum ne se contentait pas d'aller dans les narines du général, ni d'ailleurs dans celles des légionnaires qui avaient remporté la victoire. Le parfum allait partout. Tout le monde pouvait sentir cette odeur. Est-ce que vous avez remarqué, alors je ne sais pas si vous mettez du parfum. Il y en a qui ne mettent pas de parfum, c'est leur choix. Mais moi, j'ai eu l'occasion de mettre différents parfums dans ma vie. Et quand j'étais étudiant, on avait des parfums pas chers, des parfums de grande surface. Alors, c'est bien le parfum de grande surface pendant quelques minutes. Au bout de quelques minutes, ils ne sentent plus notre parfum. Et vous avez vu, quand on a un parfum, je ne vais pas dire de marque, mais un parfum de parfumeur, hein, je sais qu'il y en a qui sont peut-être de grâce. Et en tout cas, quand c'est un parfum de parfumeur, on s'aperçoit que ce parfum tient tout au long de la journée. Et donc, le parfum du Christ est censé aller partout, c'est-à-dire nous poursuivre tout au long de la journée, nous accompagner. On porte le parfum sur nous jusqu'au bout de la journée, c'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas simplement le dimanche matin entre 10h et 11h45. C'est tout le temps. Nous sommes le parfum de Christ et on se répand en tout lieu. Ça signifie dans le bus, au travail, à l'école, à la fac, au supermarché, chez le boulanger, dans l'ascenseur, au club de sport, à la pêche, à la réunion de copropriétaires. Et oui, même là, avec vos voisins, à l'apéro, dans une association où vous êtes engagé. le parfum de Christ devrait se répandre. Et comme ce n'est pas facile, eh bien, Dieu nous a donné une capacité. Regardez ce texte avec moi. Vous allez faire un petit travail. Qu'est-ce que Dieu nous a donné de particulier pour répandre son parfum ? On est 3 chapitres plus loin. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour réconcilier les hommes avec Dieu ? C'est dans le texte. Allez, je vous aide. Il nous a donné le service de la réconciliation, le ministère, le service de la réconciliation, tout ce qui touche nos mains. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et donc, Dieu va utiliser les deux. On a reçu le service et la parole de la réconciliation, c'est-à-dire que l'évangile est affirmé par notre vie et proclamé par nos paroles. Et on ne peut pas dissocier les autres. Si quelqu'un dit, tu sais, mais moi, j'annonce l'évangile toute la journée, mais que tu vis dans le péché, il manque une dimension là. Ou l'inverse. Moi, tu sais, j'ai jamais besoin de parler de Jésus. Je fais des œuvres tout le temps. Toi aussi, il manque une dimension. L'évangile, c'est les deux. L'un va crédibiliser l'autre. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai cassé mon ordinateur et donc je suis allé dans un magasin dont je tairai le nom. Et je dis, voilà, je viens de casser mon ordinateur, je lui donne un petit peu mes besoins, et puis il me dit, ah, monsieur, j'ai ce qu'il vous faut, un Mac. Je dis, bon, pourquoi pas un Mac ? Pour un passeur, c'est pas terrible, mais bref, un Mac. Je vais donc discuter avec lui, puis il me voit la partie là-dessus, puis bon, quand il m'annonce le prix, je fais, ouf, j'ai un petit quai, mais je dis, bon, je suis prêt. Et alors, avant de m'engager, je lui dis quand même, excusez-moi, chez vous, vous avez quoi comme ordinateur ? Un PC. D'accord, alors je vais réfléchir. Hein ? On fait la même chose avec l'évangile. Si on dit quelque chose et qu'on vit autrement, ça discrédite complètement son discours. Et les gens ne sont pas dupes. Je ne le suis pas, j'imagine que vous non plus. Si on dit quelque chose, mais tu sais, Jésus, avec Jésus, tu seras victorieux sur le péché, et que toi, tu baignes dans le péché toute la journée, les amis, il y a un problème là. Donc vous voyez, c'est indissociable, la parole et les actes. Et c'est comme ça que Dieu va nous utiliser pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc là, je vous pose une question. Quand on est en votre présence, qu'est-ce qu'on sent ? Qu'est-ce qu'on sent ? Est-ce qu'on reconnaît Christ au travers de toi, dans ta vie ? Est-ce qu'on sent le HIPP-BBFDM ? Je ne parle pas en langue ce matin. Et je dis toi, mais là je vais dire vous. Parce que c'est en tant qu'église. Est-ce que vous êtes une église aimante, joyeuse, amour, joie, paix, hein, d'accord ? Galates 5, 22. Est-ce que vous êtes une église paisible, où on cherche la paix ? Où on ne va pas discuter constamment des choses qui ne vont pas ? Mais regardez le verre à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide. Il n'est jamais parfait le verre, hein ? Il n'est jamais plein. Donc, comment vous regardez ce verre-là ? Comment vous regardez votre église ? Comment vous regardez vos frères et sœurs ? Est-ce que vous êtes une église patiente ? Ce qui est valable pour la collectivité est valable pour l'individu, hein ? Est-ce que vous êtes une église bienveillante ? Bonne, c'est-à-dire pleine de grâce, généreuse, hein, la bonté ? Est-ce que vous êtes une église fidèle ? Qui a la foi, qui s'appuie sur les Écritures, sur la parole de Dieu, pour mener sa vie, pas sur les philosophies du monde. Douceur, maîtrise de soi, etc. Est-ce qu'on ressent ça dans votre présence ? Parce que c'est ce que vous êtes. Nous sommes, vous êtes, le parfum de Christ. Et là, on arrive à un moment donné dans le texte. Ah oui, ce que je disais ici. Nous sommes, Dieu nous envoie comme des échantillons gratuits dans le monde pour répandre la marque authentique du parfum de Christ. Vous êtes des échantillons gratuits, les amis. Le flacon, il ne vaut pas grand-chose. Hein, vous avez déjà eu des échantillons. Ce n'est pas une œuvre d'art. C'est juste un pchit-pchit. Hein. Ce qu'il y a dedans, ça a beaucoup plus de valeur. Le contenant, ça coûte quelques centimes. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Et c'est ça qui fait votre valeur. Nous ne sommes que des vases d'argile ou des échantillons gratuits. Troisième point que j'aimerais souligner, et c'est là où on comprend rien quand on lit ce texte. En général, on se dit, qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul ? C'est énigmatique, hein ? Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Jusque-là, tout va bien. Là, ça se corse. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Et là, il faut revenir au cortège triomphal. Parce que dans ce cortège, on l'a dit, il y avait à la fois des prisonniers et les vainqueurs. Il faut savoir que dans ce cortège, les prisonniers qui étaient là, certains d'entre eux allaient être exécutés. Le parfum qui sortait de ces grosses marmites d'encens, de ces fleurs écrasées, il allait dans leurs narines. Et c'était un peu comme le clou de girofle. Pour eux, c'était le dentiste. Mais un dentiste qui va jusqu'au bout, hein, ça voulait dire la mort. Je sens cette odeur, c'est la mort. Mais pour les légionnaires et le général qui étaient fiers d'avoir remporté cette victoire, les huiles aussi, on les oublie pas, hein, les politiques, ils étaient fiers. Et pour eux, la même odeur, c'était une odeur de vie. Et vous voyez ce que ça veut dire maintenant ? On est éclairé par le contexte ici. L'évangile, c'est comme le soleil. En hiver, c'est une odeur de vie lorsqu'il fait très froid. Et à Montbéliard, vous aimez avoir du soleil parce qu'il fait très froid l'hiver. Mais cet été, j'imagine que c'était la même chose à Montbéliard qu'à Dijon, le moindre rayon solaire, je le fuyais. Quand il fait 40, un rayon de soleil, les amis, quand c'est la canicule, c'est meurtrier. Beaucoup de gens meurent chaque été. Quand les étés sont lourds, les gens meurent. Et pourtant, c'est le même soleil qui nous réchauffe en hiver et qui nous tue en été. Le même parfum. En étant le parfum de Christ, notre ministère n'est pas toujours plaisant, les amis. Je dirais même que c'est terrible d'annoncer à quelqu'un qui va passer l'éternité éloignée de Dieu s'il ne place pas sa confiance en Jésus, s'il ne se réconcilie pas avec son Créateur. Il va passer une éternité loin de la présence de Dieu. Et c'est logique. C'est logique. Si vous n'aimez pas Jésus, il ne vous forcera pas à rentrer dans le royaume de Dieu avec lui. Il n'y a que Paul Naref qui croit que tout le monde ira au paradis. Beaucoup d'autres, malheureusement. Mais non, on n'ira pas tous au paradis. Parce que ça sera un enfer si vous n'aimez pas Jésus et qu'il vous impose sa présence. Ce n'est pas le paradis, ça. Si vous détestez quelqu'un et qu'on vous dit « Ah, mais tu sais, à la fin, on ira tous au même endroit. » Ah ouais ? Et tu crois que c'est une joie pour moi de passer ma vie à côté de lui alors que je le déteste ? Allez dire à un satanique « Tu sais, à la fin, on ira tous au paradis. » Ah bon ? Mais pour lui, c'est l'enfer. Hein ? C'est une réalité. C'est une logique. Donc aux uns, c'est une odeur de vie. C'est cette belle orange piqué avec des clous de girofle, pour l'autre, c'est le dentiste. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia ! Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne croient pas ? C'est toujours dans le même texte. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous périrez. C'est-à-dire que vous passerez l'éternité loin de la présence de Dieu. Et vous dites, mais peut-être que je n'ai pas encore commis de meurtre. Moi non plus. Quoique chaque fois que je m'assieds sur un siège, je tue des milliers d'acariens ou des fourmis. Vous avez déjà tué un moustique. Enfin bref, non, je ne vais pas rentrer là-dedans. On ne va pas faire nos comptes. Mais la Bible dit qu'on est déjà jugé en fait. On est déjà jugé. Jean 3:18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Mes amis, c'est un message difficile. C'est un message exclusif. Il écarte. Il dissocie. Il y a les croyants d'un côté et les non-croyants de l'autre. Il n'y a pas d'autre catégorie. C'est l'évangile. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de notre faute si l'évangile est comme il est. Il est clivant, l'évangile. Soit on croit et on est avec Jésus, soit on ne croit pas et on est déjà contre Jésus. Vous voyez ? C'est déjà notre condition, en fait. Je vous donne une illustration. Ici, il y a un ami qui s'appelle Neil Cole. Il a écrit un livre qui s'appelle « Une Bible du café des disciples ». Et il raconte que l'histoire qui l'a le plus touché, c'est au tout début qu'il était maître nageur dans sa vie. Il a pris sa plus grande leçon spirituelle à ce moment-là. Et donc, il est à sa première journée en train de scruter l'horizon avec son flotteur. Hein. Le flotteur rouge, c'est ce qu'on a aux États-Unis pour aller chercher. Alors, c'est un peu différent, je crois, en France, quoique maintenant, je crois qu'ils ont ça. Mais il était en train de scruter l'horizon et là, tout d'un coup, il voit un gars en train de se noyer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attrape son flotteur et il nage. Donc, il nage plusieurs centaines de mètres dans l'eau jusqu'à arriver à côté du gars qui était en train de se noyer et qui était complètement paniqué. Il lui envoie son flotteur et lui dit « Attrape le flotteur !» Et la personne était en train d'essayer de ne pas se noyer, donc se débattait dans l'eau. Et donc là, il n'entend pas et il commence à sombrer. Alors il se dit « Je vais me rapprocher. » Et vous savez, le réflexe d'un noyé, c'est quand il voit le maître nageur à quelques centimètres de lui, lac, il l'attrape et il le serre. Et quelqu'un qui est dans la panique, qui vous serre, vous ne pouvez plus bouger. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ? S'il a écrit le livre, c'est qu'il s'en est sorti, lui. Hein. Un uppercut ? Non. C'est après, il faut ramener un poids mort. C'est pas évident. Non, il n'a pas fait ça. Il s'est laissé couler. Le plus profondément possible. Quand le gars a vu qu'il n'allait pas dans le bon sens, il a lâché. Et lui, il a nagé un petit peu plus loin, il est revenu à la surface et il lui a dit ce message. Soit tu prends mon flotteur et tu vis, soit tu meurs, mais on ne sera pas deux à mourir. Et bien sûr, le gars, voyant qu'il n'avait plus aucun espoir, il a saisi le flotteur et il a pu le ramener à la vie. C'est une belle image, je trouve, de l'évangile ici. Dieu ne peut pas agir dans notre vie tant que nous nous trouvons des excuses, tant que nous essayons de trouver nous-mêmes un moyen pour nous en sortir. Dieu ne peut nous sauver qu'à partir du moment où nous reconnaissons que nous sommes perdus sans lui, qu'il n'y a plus aucun espoir de nous en sortir tout seul. Pour être sauvé, il faut saisir le flotteur qu'il nous tend. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le sien, c'est Dieu qui a choisi, c'est pas nous. Et il faut saisir par la foi. Quelle pourrait être la réaction d'un chrétien face à cette difficulté de devoir annoncer ce message radical ? Moi, j'ai pensé à deux options. On pourrait cacher une partie du message en diluant l'évangile. On ne parle pas de l'enfer, on ne parle que de l'amour de Dieu, on n'évoque pas sa justice, on n'évoque pas sa sainteté. Hein ? Ou bien, on pourrait se taire, parce qu'on a peur, ou parce qu'on se sent incapable, on ne veut pas perdre nos amis, vous voyez ? Eh bien, Paul va anticiper dans notre texte ces deux réactions. Et c'est ce qu'il dit, quatrième point. Et qui est donc à la hauteur d'une telle tâche ? Autrement dit, qui peut prétendre être le parfum de Christ en permanence ? On n'est pas le flacon, les amis, on n'est que des échantillons. Vous n'êtes pas le soleil, vous n'êtes qu'une lampe de poche. Nous sommes la lumière, on n'est que des lampes de poche. Qui peut être à la hauteur ? Si vous êtes honnête, personne. Si je suis honnête devant Dieu, je ne suis pas tout le temps le parfum de Christ. Ce n'est pas possible. On est indigne de porter le précieux parfum de Christ. Quand on s'appuie sur nos ressources, c'est comme ça. On est incapable. Et là, on oublie que la valeur, elle ne vient pas de nous, et que la force pour faire ces choses-là ne vient pas de nous, elle vient de Christ. C'est ce qu'il dit juste après 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6. « Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. » Et il le reconnaît. « Je suis incapable, je suis indigne. » Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance. C'est lui qui nous rend capables. On n'est pas tout seul, les amis. On n'est pas tout seul. Notre capacité vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie pour un tel ministère. Alors certains vont dire, mais moi, tu sais, je ne suis pas évangéliste, ou bien je suis timide, Je suis introverti et je suis pécheur. Oui, et alors ? Est-ce que tu as reçu le même Saint-Esprit que les autres ? Ah, si tu as reçu le Saint-Esprit, alors donc tu devrais faire comme ses premiers disciples. Et Jésus le dit, hein, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, donc vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est parce qu'on a reçu le Saint-Esprit qu'on peut être témoin de Christ. Et ici, le mot témoin, c'est martus en grec. Ça veut dire martyr. Les témoins ont souvent été des martyrs. Nous, on a ce privilège, les amis, c'est qu'on ne sera pas lapidé en sortant. Alors peut-être à la fin du message, mais on a ce privilège qu'on ne sera pas avec des pierres à nous attendre dehors. C'est une grâce. Donc on a cette capacité et cette liberté de pouvoir parler de Jésus. Dieu ne nous demande pas d'avoir toujours la bouche ouverte. Il nous demande d'être prêts. Il ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être vrai. D'être vrai. J'en ai raté quelques-unes là. Comme ça avance plus vite. Il nous demande d'être authentique. Vous savez, quand j'ai discuté avec un collègue de travail il y a quelques années, hein, je travaillais dans l'industrie et on était dans le même bureau d'études. Et donc, à un moment donné, je donnais mes rapports à la secrétaire qui devait les taper. Et à un moment donné, j'ai eu une parole maladroite vis-à-vis de la secrétaire. Et puis, je suis allé la trouver en lui demandant pardon. Et là, elle m'a regardé avec des gros yeux comme ça. Quoi ? Mais ça se fait pas. Pas chez toi. Elle a été soufflée que je vienne lui demander pardon parce que j'avais eu une parole maladroite. Et bien là, ça m'a donné un pont pour que je puisse parler de la grâce, que je puisse parler du pardon, que je puisse parler de la croix. Parce qu'elle s'est dit, waouh, mais cet homme-là, il est différent de tous les autres. Parce que quand on me parle mal, c'est normal. Eh bien, lui, il vient me demander pardon. Vous voyez, c'est pas être parfait, c'est simplement manifester le pardon, la grâce et notre imperfection, et être vrai, authentique. L'apôtre Pierre nous dit, mais dans votre cœur, consacrez Christ comme Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. Ici, il ne s'agit pas d'avoir la bouche tout le temps ouverte. Il dit, soyez prêts, saisissez l'opportunité qui va se présenter. Et vous avez vu, à quiconque vous demande, il n'y a pas besoin de faire de forcing. C'est que votre vie, votre attitude, vos réactions, vos choix, vont être suffisamment parlants et interpellants pour que les gens viennent vous poser des questions. Vous savez, on tient un café depuis 9 ans maintenant au centre-ville et j'ai vécu tellement de fois la même situation. Au tout début, lorsque les gens pénétraient dans notre café, ils me disaient « Ah, c'est super, vous êtes un café associatif, mais vous faites quoi dans la vie ?»« Je suis pasteur. »« Ah !» On buvait son café et la personne, je ne la revoyais plus jamais. Et j'ai compris comment ça fonctionnait. Parce qu'ils se disent, et j'en ai discuté avec plusieurs, et ils m'ont dit, mais quand tu dis que t'es pasteur, on se dit, tiens, il est là pour m'évangéliser, pour me bourrer le crâne avec l'évangile, pour m'imposer sa religion. Mais c'est pas ça. Non, j'ai compris comment ça fonctionne. Ah, vous êtes un café associatif, mais qu'est-ce que vous faites ? Ah ben, dans notre café, on a des infirmières, des chômeurs, des retraités, des étudiants, et je parle pas de moi. La personne oublie, on vit, plusieurs fois, elle revient, elle trouve ça génial, on discute de tout et de rien. Et à un moment donné, quand il y a une difficulté, comme on a cette relation de confiance, elle vient me voir et elle me dit « Au fait, Franck, tu m'as jamais dit, tu fais quoi comme métier ? Je suis pasteur. » Et c'est pas « Et je m'en vais. » Non, non. « Waouh ! T'es pasteur ? » Non, j'y crois pas. Jamais j'aurais croire que tu étais pasteur. Parce qu'elle s'imaginait qu'un pasteur, c'était avec le col blanc, sa petite robe et qu'il la regarde comme ça. Mais non, t'es pasteur. Eh oui, je peux même parler du foot, je peux parler de sexe, je peux parler de tout. Vous voyez ? Et on a fait tomber tous ces a priori-là. On a labouré, les amis. On a pris ce temps. On n'a pas fait que semer. On a pris le temps de labourer le terrain et ensuite on a semé. Dernier point. Et ça, c'est l'autre tentation. La première, c'est de ne pas tout dire. La deuxième, c'est de diluer le parfum. Hein, notre message est radical. Eh bien, Paul, il dit ici, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu dans l'union avec le Christ que nous annonçons la parole. Il n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas contextualiser le message. Si vous regardez le nombre de fois où Jésus a annoncé l'évangile dans ses rencontres, il n'a jamais utilisé la même méthode. Jean chapitre 3 avec Nicodème, il prêche la nouvelle naissance. Jean chapitre 4 avec la Samaritaine, c'est un puits et de l'eau, je vais étancher ta soif. Jean chapitre 8 avec la femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, on ne sait pas où est le gars, mais ce n'est pas grave. Il lui prêche la grâce. Et puis on peut continuer. Et à chaque fois, Jésus annonce toujours le même évangile, mais il va s'adapter en fonction de la connaissance. Ça s'appelle contextualiser le message. J'ai été juif avec les juifs, grec avec les grecs. Paul s'est adapté à son contexte. Et c'est ce que nous devons faire. Mais jamais, les amis, jamais vous ne devez diluer l'évangile. Jamais on doit diluer ce message. Le mot qui est utilisé ici, accommoder, qui est traduit par accommoder, ça veut dire falsifier, frelater, diluer. C'était utilisé pour des marchands qui vendaient du vin et qui rajoutaient de l'eau dedans. Et donc, ils vous vendaient un litre de vin. Il y a des puristes parmi vous. Je sais, c'est un blasphème. Ces gens-là mettaient de l'eau dans le vin. Sacrilège. Sacrilège pour un bourguignon, c'est un sacrilège. Pour la parole de Dieu, c'est la même chose. L'apôtre Paul, Galates 1, versets 8 et 9. Si quelqu'un, même nous, même lui s'inclut là-dedans, même un ange du ciel vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, anathème, qu'il soit séparé de Dieu. Mes amis, notre message, il faut l'annoncer tel qu'il est, l'adapter. On est d'accord. Mais certainement pas vendre un évangile Weight Watchers. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la prospérité. On prêche un évangile que les gens veulent entendre. Il y a du monde qui vient, évidemment. Qui refusera un cadeau qu'on lui offre gratos ? Viens Jésus, tu verras, ta vie va être toute rose. Tu seras guéri de tes maladies. Ah oui ? Pourquoi tu reviens tous les dimanches recevoir une prière ? On va être libéré de notre péché, définitivement. Ah oui, mais pourquoi tu pêches encore ? Etc., etc. Une vie à l'eau de rose. Un évangile light. Ce n'est pas l'évangile du renoncement à soi. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, ça. Si quelqu'un veut gagner sa vie, il la perdra. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à tes penchants, tu dois renoncer à ton petit égoïsme et te tourner vers lui. Romains 9, verset 23. Chaque jour, on doit porter notre croix. Chaque jour, on doit renoncer à notre péché. C'est une lutte de chaque instant. Ce n'est pas la vie rose. Non, on doit lutter contre le péché. Tous les matins, je lutte contre ça et je me rappelle cette croix. Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Et je peux avancer avec ça chaque matin. Allez, je conclue. Un professionnel du parfum, ça s'appelle un nez. C'est l'œnologue chez les parfumeurs. Il a écrit dans son livre « Parfum le guide », il a analysé deux parfums. Il en a analysé des centaines, mais moi j'ai pris ces deux parce qu'ils étaient intéressants. Christian Lacroix. C'était beau, hein ? Malheureusement, c'est pas le meilleur. Comme son nom l'indique, « C'est la vie » est un cliché fait sur mesure pour le marché international. Agréable comme un concert de klaxon un jour de migraine, original comme une annonce d'aéroport et discret comme un bris de vitrine. « C'est la vie » est une imposture, un sans-bon de gare vendu le prix d'un vrai parfum. Mes amis, j'espère que votre vie reflète la bonne odeur de Christ, que vous n'êtes pas des sans-bons de gare ou des pâles imitations. Toujours dans ce même livre, il analyse Kouros. Moi, je l'ai appelé Christos. C'est l'équivalent olfactif d'un gong dont le son n'a pas de hauteur car il couvre tout le spectre sonore. Une base ambre-cuir à la fois sombre, suave et très poudreuse, dégage une aura qui irradie au loin une note propre, rappelant la peau et les cheveux. Cet équilibre précaire entre le spirituel, c'est marqué chimique dans le texte, et l'humain fonctionne parfaitement et fait de Christos le parfum homme le plus insolite des 20 dernières années. Un parfum unique et inimitable. Attention sur un homme, ne pas forcer la dose. Comme Christos, le parfum de Christ, mes amis, est unique et inimitable. Personne ne peut imiter le fruit de l'Esprit. On peut l'imiter d'une certaine mesure. Mais quand on crée une situation difficile, le fruit s'en va. Le fruit s'en va. On devrait sentir le vrai parfum de Christ authentique. On ne doit pas répandre une imitation de parfum, mais le véritable parfum de Christ. Parce que c'est au travers de nous, au travers de l'amour que nous avons les uns pour les autres, que les gens pourront voir Christ. Et c'est ce que je vous souhaite, ce que je souhaite à toutes vos églises rassemblées, c'est que vous puissiez sentir ce parfum de Christ. Merci de votre attention.